C'est l'heure du journal, Benoît Bouscarel. Bonsoir Benoît.
Bonsoir à toutes et à tous. Nous prendrons des nouvelles du gouvernement français dans ce journal. Recadrage ferme de Gérard Collomb par le Premier ministre, incertitude assumée de Nicolas Hulot, chronique d'une équipe dans le doute avec Yannick Falt et Laurent Grollet. Marion Maréchal-Le Pen voudrait-elle faire oublier une partie de son histoire, y compris familiale? En tout cas, elle a récemment gommé une partie de son nom sur les réseaux sociaux et ça pourrait vouloir dire beaucoup. Précision à venir de Stéphane Robert. À l'étranger, des précisions sur le contrat de gouvernement entre la Ligue et le mouvement 5 étoiles en Italie, un vendredi relativement calme au Proche-Orient et la démission collective des évêques du Chili. Et puis l'enquête de cette édition à la fin du journal, elle sera signée Laetitia Chérel, analyse du discours d'Emmanuel Macron à destination des catholiques de France. La limitation à 80 km/h de la vitesse maximale autorisée sur les routes françaises à partir de cet été a décidément bien du mal à passer, y compris au sein même du gouvernement. Hier, la petite sortie de Gérard Collomb refusant de soutenir cette décision a provoqué un recadrage ferme et rapide de Matignon, aujourd'hui destiné au ministre de l'Intérieur, et le retour de questionnements sur l'état et le mode de fonctionnement de ce gouvernement un an après sa mise en place. Yannick Falt.
Édouard Philippe justifie une fois de plus la mesure sur le fond. Il s'agit de vies sauvées, de blessés en moins. Un enjeu de sécurité routière, mais aussi et surtout de santé publique. Il n'y a pas de place pour les états d'âme au sein du gouvernement. Recadrage en douceur de Gérard Collomb, mais recadrage quand même.
La décision a été prise. Elle est évidemment aujourd'hui la décision de l'ensemble du gouvernement. J'ai eu l'occasion, avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, mardi matin, devant l'ensemble des préfets qui servent en France, de redire à la fois l'engagement du gouvernement sur cette mesure et de leur demander de tout faire pour que cette mesure puisse être mise en œuvre à compter du 1er juillet dans les meilleures conditions. Je sais évidemment pouvoir compter sur l'engagement du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, pour faire en sorte que cette décision du gouvernement soit mise en œuvre dans d'excellentes conditions. J'ai eu l'occasion de le lui dire à de nombreuses reprises, et encore ce matin, au cours des discussions téléphoniques que nous avons et qui sont évidemment très nombreuses.
Hors micro, l'entourage du Premier ministre évoque une boutade de Gérard Collomb. Pas génial, c'est vrai, reconnaît une conseillère le jour de l'opération pédagogie du gouvernement. Mais Matignon se rassure, ça crée un remous le temps d'une matinée. L'important, c'est que la mesure sera bel et bien mise en œuvre le 1er juillet.
Yannick Falt, autre ministre du gouvernement Philippe, en légère délicatesse ces temps-ci, Nicolas Hulot, qui a fait état de son questionnement quant à son avenir au sein du gouvernement. Nicolas Hulot était à Marseille aujourd'hui pour présenter son plan de mobilisation pour la biodiversité. Il s'agit notamment de lutter contre les pollutions terrestres et maritimes. Et le ministre de la Transition écologique et solidaire a pris le bateau pour une visite des Calanques et de l'île du Frioul dans un climat politique un peu particulier. Reportage de Laurent Grollet.
Évidemment, la question de sa présence au gouvernement lui a été posée.
Ah, j'étais étonné. Mais ce qui est marrant, c'est que vous me posez une question alors que la question ne s'est jamais posée.
Pas le lieu, ni le sujet. Donc, le sujet, c'est pour Nicolas Hulot aujourd'hui la préservation de la biodiversité, notamment sur cette île du Frioul à Marseille.
Parce que c'est vraiment un sujet maintenant que je veux faire remonter au même niveau que l'enjeu climatique. L'année prochaine, nous allons accueillir un G7 en France, dont le sujet principal sera la biodiversité.
Le ministre écoute et s'arrête devant un astragal de Marseille, une plante qui pousse malgré l'aridité du climat sur le Frioul.
Tout l'enjeu, c'est d'arriver à préserver la flore.
On ne sait pas que si quelqu'un, malencontreusement ou volontairement, pose le pied là-dessus, c'est 30 ans de pulsion de vie qu'on compromet.
Un bel exemple de ce que doit être la préservation de la faune et de la flore, Nicolas Hulot.
Mon rêve, c'est que demain, plutôt que les enfants cherchent un Pokémon, ils cherchent l'astragale de Marseille avec le même outil. Le jour où on comprend, en réalité, qu'on n'a fait que reproduire et que copier la nature, là, ça nous met dans une situation quand même un peu plus de respect.
Et avant de reprendre le bateau, Nicolas Hulot confie que dans l'ambiance politique du moment, eh bien, il aurait bien piqué une tête dans la Grande Bleue.
Laurent Grollet, à Notre-Dame-des-Landes, la deuxième opération d'expulsion débutée hier se poursuit en cette fin d'après-midi dans le calme, d'après les témoignages recueillis sur place. Plusieurs dizaines de camions de gendarmerie sont toujours sur la zone. L'opération devrait être terminée ce soir. À l'extrême droite, les grandes manœuvres auraient-elles commencé en vue des prochaines échéances électorales? Se pourrait-il que Marion Maréchal-Le Pen en particulier ait envoyé un signal fort aujourd'hui en vue de la présidentielle de 2022? Bonsoir Stéphane Robert.
Oui, bonsoir.
L'ancienne députée du Vaucluse a beau avoir annoncé son retrait de la vie politique l'année dernière, elle n'a jamais été aussi active en coulisses. Et aujourd'hui, un point de détail a retenu votre attention, Stéphane. Marion Maréchal-Le Pen a tout simplement gommé une partie de son nom sur les réseaux sociaux où elle n'apparaît plus que comme Marion Maréchal.
Oui, terminé le nom Le Pen, Marion Maréchal a supprimé cet après-midi de ses comptes Twitter et Facebook le patronyme qu'il a rattaché à son grand-père et à sa tante. Et ça n'a rien d'une anecdote si l'on observe son parcours depuis la défaite de Marine Le Pen à la présidentielle face à Emmanuel Macron il y a tout juste un an. Elle a d'abord annoncé son retrait de la vie politique pour aller, disait-on, faire des affaires en Afrique. Mais en parallèle, à la rentrée 2017, au mois de septembre, naissait un journal mensuel, L'Incorrect, dont plusieurs des fondateurs sont des proches de Marion Maréchal. C'est d'ailleurs ce journal, L'Incorrect, qui organise le 31 mai prochain une soirée intitulée « Débranchons mai 68 » et dont l'une des invitées vedettes est précisément Marion Maréchal Le Pen. Ensuite, on l'a vu au mois de février au congrès du Parti Républicain aux États-Unis. Elle y a fait une intervention très remarquée au cours de laquelle elle a rendu hommage à Donald Trump et a souhaité rendre à la France sa grandeur.
I'm not offended when I hear President Donald Trump say America first. I want America first for the American people. And I want France first for the French people.
Une intervention qu'on peut résumer par l'Amérique aux Américains et la France aux Français. Par ailleurs, Marion Maréchal-Le Pen est actuellement en train de créer une école de formation à Lyon qui va s'appeler Académie des sciences politiques et qui est censée former les futures élites politiques de droite. Tout ça converge vers un probable retour sur la scène politique à brève échéance. Avec en perspective la présidentielle dans 4 ans, Marion Maréchal a sans doute fait le constat que le débat de l'entre-deux-tours face à Emmanuel Macron l'an dernier a durablement décrédibilisé sa tante Marine Le Pen et que cette dernière aura sans doute bien du mal à défendre à nouveau ses chances en 2022. Dès lors, elle tisse sa toile patiemment pour le cas où, dans quelques temps, elle se retrouverait en situation.
Merci Stéphane Robert. On a appris aujourd'hui la mort survenue hier de Nicole Fontaine, l'ancienne présidente du Parlement européen, était âgée de 76 ans. Avocate de formation, elle avait été ministre déléguée à l'industrie entre 2002 et 2004 au sein d'un des gouvernements Raffarin. 3 TGV sur 5 circuleront demain. Il y aura un intercité sur 2 et 2 TER sur 5. Ce sont les prévisions de trafic communiquées par la SNCF pour la deuxième journée du 10e mouvement de grève sur les rails français depuis le début de ce mouvement en avril. Bonsoir Pierre Coquelin.
Bonsoir Benoît.
La bataille entre les syndicats et la direction de la SNCF s'est en partie déplacée aujourd'hui sur le terrain judiciaire. En référé, la demande faite à la SNCF de payer certains jours de repos des grévistes n'a pas été validée et les syndicats, bien sûr, qui avaient introduit cette demande, sont déçus.
Oui, un coup dur, hein, oui, un mauvais signal pour Roger Dillenseger, le secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire, car ces jours de repos entre les périodes de grève ne sont pas payés.
Très franchement, c'est une vraie déception qui va mettre en difficulté les cheminots et leur pouvoir d'achat. Sur ce type d'approche, effectivement, on peut s'interroger que les cheminots, au moins une partie d'entre eux, iront vers une certaine radicalisation en se disant quitte à perdre, autant tout perdre. Je suis très très prudent par rapport à la réaction directe des cheminots.
Un coup dur, mais pas un coup fatal, comme l'indiquent les organisations syndicales. Il reste le jugement sur le fond, le 31 mai prochain, toujours devant le tribunal de Bobigny. La bataille n'est donc pas terminée. Aujourd'hui, c'est la position de la SNCF, celle d'un mouvement unique qui prime. Mais de leur côté, les syndicats expliquent que ce sont des séquences indépendante, puisqu'il y a 18 préavis de grève distincts déposés entre avril et juin, avec chacun leurs revendications. Sébastien Mariani est le secrétaire général adjoint de la CFDT Cheminots.
Nous demandons simplement l'application de la règle qui est en vigueur dans toutes les entreprises en matière de droit de grève, c'est-à-dire que les jours de repos ne sont prélevés que dès lors qu'il y a continuité du mouvement avant et après les repos. Là, ce n'est pas le cas. On est dans une situation où la SNCF entend pratiquer la guerre totale, y compris au mépris du respect du droit syndical et du droit de grève.
Une décision qui intervient alors que la participation connaît un nouveau coup de mou et que la vote-action, la consultation des cheminots, se poursuit jusqu'à mardi, avant un grand rendez-vous le 25 mai entre les syndicats ferroviaires et le Premier ministre Édouard Philippe.
Merci Pierre Coquelin. Le Conseil d'État a validé aujourd'hui le principe des tarifs réglementés de l'électricité qui permettent, selon le Conseil d'État, de garantir la stabilité des prix. Les fournisseurs d'électricité alternatifs n'ont donc pas été suivis. Plusieurs morts, peut-être entre 8 et 10 à Santa Fe dans le Texas, dans une fusillade survenue dans un lycée. Donald Trump fait état de son inquiétude et dénonce une attaque horrible. Il y a quelques minutes, le shérif de Santa Fe a fait savoir que le tireur qui aurait été arrêté est un élève de l'établissement. Baisser les impôts et sortir de l'austérité, voilà l'idée force du gouvernement à venir en Italie. Pour l'instant, aucune piste n'a été évoquée en ce qui concerne les personnes qui pourraient incarner ce gouvernement, qui n'a d'ailleurs pas de chef putatif. Mais l'alliance de la Ligue d'extrême droite et du mouvement anti-système 5 étoiles avance vers un programme à la tonalité inédite en Europe. À Rome, Mathilde Imberti.
Le programme révélé ce matin par la Ligue et par les 5 étoiles tourne le dos à l'austérité sans pour autant quitter l'euro. Les néo-alliés entendent avant tout relancer la demande interne italienne en baissant les impôts d'abord. C'est la promesse électorale de la Ligue qui a été retenue avec une imposition rabaissée à 15 ou 20% pour les entreprises comme pour les particuliers. Faire progresser les revenus des Italiens les plus pauvres, ça c'est une idée des 5 étoiles. Ils obtiennent dans ce contrat de gouvernement la mise en place d'un revenu minimum à 780 euros par mois. La Ligue et les 5 étoiles tombent naturellement d'accord par ailleurs sur un abaissement de l'âge de départ à la retraite. La mesure faisait partie de leur programme à tous les deux. La réforme votée sous le gouvernement technique de Mario Monti et avec la bénédiction de l'Europe faisait passer l'âge de départ à la retraite à 67 ans. Elle est balayée. Selon l'Observatoire des comptes publics italien, cependant, le pays n'a pas les moyens de mettre en place ces mesures, évaluées par l'organisme à plus de 100 milliards d'euros. Maintenant aux militants de se déterminer. Ceux des 5 étoiles votent sur Internet jusqu'à 20h ce soir. La Ligue organise des consultations dans tout le pays sous forme de petits chapiteaux où il sera possible de consulter le programme. Objectif arrivé lundi devant le chef de l'État, fort du soutien des électeurs.
Mathilde Imberti. Une journée relativement calme au Proche-Orient. Ce premier vendredi du mois de Ramadan était attendu et redouté à Jérusalem comme à Gaza. Et alors que la semaine s'était ouverte sur la mort d'une soixantaine de manifestants palestiniens lors de leur manifestation de lundi, elle semble se refermer dans une toute autre ambiance. Correspondance d'Étienne Monin à Jérusalem.
À Gaza, ce qui se passe, c'est l'effet conjugué de la diplomatie et du choc de la répression. Dès mardi, le Hamas a cherché la désescalade. Il y avait un risque de confrontation armée. Les dirigeants auraient reçu des menaces explicites des Israéliens en cas de poursuite du mouvement. Le Hamas a donc gardé la face en appelant à de nouveaux rassemblements. Mais dans les faits, il a stoppé sa capacité de mobilisation. C'était aussi une demande des Égyptiens qui viennent d'annoncer l'ouverture de leurs frontières avec Gaza pour toute la durée du Ramadan. Difficile de savoir si c'est une accalmie ou la fin de la mobilisation, mais les Gazaouis ont eux aussi choisi d'éviter la frontière. Il y a le choc de la répression de lundi et le sentiment d'avoir payé très cher pour pas grand-chose, sans réponse du Hamas malgré un bilan catastrophique. À Jérusalem, l'histoire est différente. Les Palestiniens ont le sentiment que l'occupation se renforce. Leurs moyens d'action sont de plus en plus limités et contrôlés. Ils sont coupés de Gaza, mais aussi de Ramallah. Il y a un sentiment d'abandon. Les habitants semblent résignés. La lutte armée ressemble à un outil d'une autre époque. La question aujourd'hui est de savoir s'ils sont prêts à se mobiliser sur le terrain des droits en votant massivement lors des prochaines élections municipales.
Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté aujourd'hui une résolution pour envoyer une équipe internationale spécialisée dans les crimes de guerre pour enquêter sur les événements à Gaza. En réponse, le ministère israélien des Affaires étrangères a critiqué cette initiative en étant hypocrite et absurde. Un plan de riposte contre Ebola activé en République démocratique du Congo dans le nord-ouest du pays. C'est le ministère de la Santé qui l'a annoncé alors qu'un nouveau bilan selon l'OMS fait état de 25 morts liées au virus. D'après le communiqué d'urgence de l'OMS, le risque de propagation internationale de cette épidémie est grand, mais il y a de fortes raisons de croire que cette situation peut être maîtrisée. Une démission collective pour tenter de marquer les esprits, au moins autant que les scandales en matière de pédophilie ont marqué l'église chilienne ces derniers mois. Toute la hiérarchie catholique du Chili est aujourd'hui retournée, depuis que, à la mi-journée, les 34 évêques du pays ont annoncé leur démission collective, non sans demander pardon au pape, aux fidèles et à la société chilienne, sans qu'il soit certain que cette demande de pardon touche les principaux intéressés. Correspondance depuis Santiago du Chili de Justine Fontaine.
Une partie des évêques a atterri au lever du jour à l'aéroport de Santiago, presque en même temps que leur démission collective était rendue publique à Rome. À leur arrivée, l'un d'entre eux a déclaré qu'ils attendaient la décision du pape pour savoir à qui François demandera de se retirer effectivement de ses fonctions. Le souverain pontife avait convoqué cette semaine l'intégralité des évêques chiliens au Vatican pour tirer les conséquences de la gestion désastreuse des scandales de pédophilie révélés dans le pays à partir de 2010. Dans le cas le plus emblématique, celui d'un célèbre prêtre de Santiago, ayant formé plusieurs évêques, les victimes accusent depuis des années la hiérarchie catholique d'avoir eu connaissance des faits bien avant leur révélation dans les médias, mais d'avoir couvert le prêtre en question et même détruit des éléments qui auraient pu servir de preuve contre lui. Plusieurs victimes chiliennes reçues par François fin avril ont réagi sur les réseaux sociaux. « Que ces délinquants partent tous », écrit l'un de ces hommes. Un autre conclut de cette phrase sans appel, c'est la fin de la conférence épiscopale qui ressemble tant à une mafia. Dans une lettre transmise aux évêques par le pape cette semaine et révélée par les médias chiliens, François affirme que les problèmes de l'église chilienne ne se résoudront pas uniquement par la mise en retrait d'individus. Il faut aller plus loin, écrit le pape.
Justine Fontaine, les relations de l'Église avec cette fois le pouvoir politique en France, c'est le sujet de l'enquête de cette édition qui est signée cette semaine Laetitia Chérel. Bonsoir Laetitia.
Bonsoir.
Vous avez enquêté sur les liens entre Emmanuel Macron et les catholiques.
Oui, et il y a un discours qui symbolise la volonté du chef de l'État de dialoguer avec l'Église. C'est celui qu'il a prononcé le 9 avril dernier au Collège des Bernardins devant les évêques de France. Une première pour un chef de l'État.
Oui, avec une petite phrase qui est restée dans les mémoires.
Ah oui, celle sur le lien abîmé, selon le président de la République, entre l'Église et l'État. À gauche, on a accusé Emmanuel Macron de s'attaquer à la laïcité. Mais il y a beaucoup d'autres phrases dans ce fameux discours où le chef de l'État va loin dans son expression. Par exemple, un président qui se désintéresserait de l'Église manquerait à son devoir, ou encore la sève catholique doit contribuer à faire vivre notre nation.
Alors vous avez tenté d'expliquer ces mots et cette main tendue du chef de l'État, Laetitia.
L'objectif pour le camp Macron, c'est de réconcilier l'État avec les catholiques. Il faut dire que les relations s'étaient pour le moins tendues sous la présidence de François Hollande, avec l'épisode du mariage homosexuel. Alors pour mieux renouer le dialogue, le président de la République, Emmanuel Macron, n'hésite pas à utiliser dans ce discours leur vocabulaire comme pour parler leur langage. Écoutez ce passage.
Entre la vie de l'enfant à naître, celle de l'être parvenu au seuil de la mort ou celle du réfugié qui a tout perdu, vous voyez ce trait commun du dénuement, de la vulnérabilité absolue.
Alors ça vous a peut-être échappé, mais l'expression « la vie de l'enfant à naître » n'est pas du tout anodine. C'est même la formule qu'utilisent ceux qui considèrent que, dès le début de la grossesse, le fœtus est un être humain à part entière, comme l'explique le journaliste de La Croix, Gauthier Vaillant.
Effectivement, c'est le terme qui est utilisé par tous les opposants à l'avortement et par l'Église qui est contre l'avortement, qui le redit régulièrement. Donc le fait que Emmanuel Macron l'utilise, pour moi, ne veut absolument rien dire de sa position sur l'IVG, mais est une manière de dire à son public ce soir-là au Bernardin, je connais votre langage et je sais le parler. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de catholiques qui ont été sensibles à ça.
Alors ce discours d'Emmanuel Macron, Laetitia, il s'inscrit aussi évidemment dans son agenda politique.
Oui, avec la révision des lois de bioéthique cette année, un sujet très sensible pour les catholiques, et notamment l'ouverture éventuelle de la PMA, la procréation médicalement assistée aux couples de femmes. C'est d'ailleurs une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Dans son discours, le chef de l'État rappelle qu'il a ouvert le débat bioéthique à tous, y compris à l'Église, un peu comme s'il avait tiré les leçons de la mobilisation contre le mariage homosexuel quand il était secrétaire général adjoint de l'Élysée, comme le rappelle le politologue Jérôme Fourquet.
Il a sans doute fait un retour d'expérience, comme on dit dans les entreprises, de la séquence précédente en disant « faisons en sorte que seuls les noyaux les plus politisés, les plus militants défilent, mais qu'on ne soit pas dans une jauge qui soit démultipliée avec plusieurs centaines de milliers de personnes. » Mais je pense voilà, qu'il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour essayer de faire baisser le plus possible la température et de préparer le terrain sur une ouverture de la PMA.
Alors, déminer l'opposition à la PMA, ce sera plus facile à dire qu'à faire. Hein.
Ben oui, si on écoute la réaction de Ludovine de la Rochère, la présidente de la Manif pour tous, c'est ce qu'elle appelle la PMA sans père, c'est-à-dire la PMA pour les couples de femmes. Si cette PMA était légalisée, elle le vivrait comme une déclaration de guerre.
Si, mais je n'arrive pas à le croire, mais s'il devait y avoir un projet de légalisation de la PMA sans père, la mobilisation serait immense parce que si c'était pour dire maintenant on a bien débattu, puis point, on ferme la parenthèse, maintenant on y va, ce serait se moquer de la démocratie. La réaction serait encore plus épidermique.
Alors on l'entend, l'avertissement est très clair. En attendant, Emmanuel Macron devrait rencontrer le pape François au Vatican le 26 juin prochain. Une étape de plus, sans doute, dans sa stratégie de réconciliation avec l'Église.
Merci Laetitia Chérel. Votre enquête est disponible en intégralité sur notre site internet franceculture.fr. Une journée de samedi ensoleillée sur la France, même si les nuages bas assombriront le sud de la Garonne et les Hauts-de-France, au moins dans la matinée. Les températures minimales seront comprises entre 5 et 14 degrés. Les maximales iront de 15 à 25 degrés dans l'après-midi.